étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 53e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice jurassienne de naissance et rodanienne d'adoption, Maryse Vuillermet, dont le dernier roman, La Pia, est paru aux éditions du Rouergue et dans la collection Rouergue Noir le 1er octobre 2025. Maryse, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vous préférez le mot autrice, auteure, romancière ou écrivaine dans ce qu'on vous présente?
Les quatre me vont bien.
Ah, d'accord. Donc c'est moi qui choisirai alors.
Oui, voilà.
Bien. Bon, bah, autrice, allez. Alors, bien. Alors, vous êtes née à Saint-Claude.
Oui.
Vous gardez quel souvenir de vos jeunes années dans le Jura?
Alors, de bons souvenirs, en règle générale. Je ne suis pas née à Saint-Claude dans la ville, je suis née un petit peu à côté, à 2 km, dans la vallée du Flumen et du Tacon, enfin, à la confluence du Flumen et du Tacon. Donc, la maison était pas loin d'une rivière. Et assez vite, derrière la maison, il y a eu un immense terrain de camping, et à côté, une piscine, donc... Tout l'été, on avait l'impression d'être en vacances. Et ensuite, à l'école primaire, je suis allée dans une école primaire de campagne. Ce n'était pas à Saint-Claude non plus. C'était classe unique de 5 ans à 14 ans. Et on montait un chemin creux. L'hiver, on redescendait en luge quand il y avait de la neige. Enfin, c'était vraiment une enfance campagnarde. Et au lycée, ensuite, là, collège puis lycée, là, j'ai rencontré la ville, d'une certaine façon, la ville de Saint-Claude. Et c'est à la fois sa vie, parce qu'il y avait encore énormément de vie à ce moment-là, les cafés, la maison du peuple, la halle de la Grenette, où il y avait le marché, puis le bal populaire, le samedi soir, enfin, c'était très vivant. Et bien sûr aussi le travail en usine, puisque mes deux parents étaient ouvriers, mon père était diamantaire et ma mère a travaillé dans les usines d'injection de matières plastiques. Elle était aussi polisseuse de pipes. Et donc, il y avait quand même la dureté du travail de mes parents. Et puis, assez vite au lycée, l'envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et je lisais des écrivains voyageurs, Henri Miller, Laurence Durel. Plus tard, j'ai lu des femmes voyageuses comme Alexandra Davinel, qui était la première femme à entrer au Tibet, ou Isabelle Eberhardt, qui était la première femme à aller au Sahara. Et donc, assez vite, j'ai eu envie de partir.
Vous avez toujours aimé lire et écrire?
Oui. J'aimais beaucoup lire quand j'étais enfant. Et puis, ce qui était amusant, c'est qu'on avait quelques livres d'enfants et c'était toujours moi qui lisais pour mes frères et sœurs, donc surtout pour mes sœurs. Et ensuite, j'ai lu les livres de la bibliothèque à l'école primaire, les livres de la bibliothèque du collège, en fait, tous les livres que je trouvais. C'était une évasion, c'était un plaisir. Et puis, l'écriture aussi, très vite, parce que dès l'école primaire, j'avais des bonnes notes en rédaction. Enfin, j'étais valorisée par le fait d'écrire. Et ensuite, au lycée, je dirais, je me suis dit, un jour, j'écrirai, quoi, je serai écrivaine. Ça a pris du temps, mais je suis devenue écrivaine.
Alors, votre père est originaire de la vallée d'Aoste, une région bien particulière. Hein. On parle aussi bien l'italien que le français.
Oui.
Notre langue avait une importance particulière.
Pardon ?
Notre langue avait une importance particulière. Vous étiez plus petite dans la famille.
L'italien ?
Notre langue, la nôtre. Le français.
Pardon.
C'est pour éviter les répétitions, c'est pour
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Voilà.
mes parents lisaient aussi. Ma mère et mon père aimaient beaucoup l'histoire de France, l'histoire en général. Donc,
on peut rappeler, parce que c'est une histoire bien particulière, ceux qui sont nés dans la vallée d'Aoste.
Ah, pardon.
Oui, oui, c'est pour ça.
Donc,
voilà.
Oui, donc,
le français. Ouais.
On revient au français. Donc, mon père est arrivé en France à 5 ans. C'est son père qui est arrivé d'abord, dans les années 30, chassé à la fois par la misère et par le fascisme, et également par le fait que Mussolini avait interdit le français dans cette vallée. Le Val d'Aoste était à l'origine une partie de la Savoie, donc il a été annexé par l'Italie, donc les gens étaient francophones. Donc Mussolini, leur interdisant leur langue, certains ont émigré aussi pour ça. Mon grand-père, c'était surtout parce qu'il était misérable. Enfin, il avait perdu des vaches, enfin, il n'avait plus de quoi gagner sa vie. Et mes grands-parents parlaient donc, mes grands-parents paternels parlaient très bien le français et l'italien, les deux. Mon père, lui, n'avait pas encore bien appris aucune des deux langues, puisqu'il est arrivé à 5 ans. Et après, à la maison, on disait aux enfants, parlez français, parce qu'on est en France, il faut que vous parliez français, quoi.
Donc, ma question était la suivante. Notre langue avait une importance particulière, le français.
Oui, ouais. Oui, oui. C'était une langue, la langue de l'intégration, enfin, en tout cas pour mon père, quoi.
Et le français était pour vous une matière importante à l'école ?
Oui, oui. Dans la mesure où j'aimais lire, où j'aimais écrire, où j'aimais m'exprimer, c'était ma matière préférée, c'était la matière où j'avais les meilleures notes, et c'était la matière qui me permettait de rêver, quoi, de m'évader d'une certaine façon.
Alors vous avez fait de votre langue votre métier, puisque vous avez été professeur de français.
Oui.
C'était presque la suite logique, comme si c'était le métier qui vous avait choisi et non l'inverse.
Alors, à l'origine, je n'avais pas l'intention d'être professeur. Comme je l'ai dit, je voulais voyager et je voulais écrire. Donc, je m'étais mis en tête que j'allais devenir écrivain voyageur. Seulement, parfois, les rêves se heurtent à la réalité. Hein. Voyager, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parfois difficile et dangereux et ça coûte cher. Donc, je me suis dit, puisque j'aime aussi la littérature, je vais enseigner la littérature, mais à l'étranger. Donc, je suis partie, c'était mon premier poste à la fin de mes études, enseigner en Algérie, mais en Algérie, dans le désert, vraiment à 500 km au sud d'Alger. Donc, c'était déjà pas le désert de Dune, mais le désert de Lergue. Et là, j'étais très, très heureuse parce que je vivais mon rêve d'une certaine façon. Avoir de quoi vivre, enfin, avoir un salaire, puisque dans la famille, quand on est ouvrier, c'est très important d'avoir un salaire. Avoir un salaire, mais être ailleurs. N'importe où, hors du monde, comme dit Baudelaire.
Alors, professeur de français, c'est un métier où l'on transmet une langue.
Alors oui, juste pour finir. Oui, après, quand j'ai commencé à enseigner, ça m'a plu. Ça m'a plu tout de suite. Et je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Et j'ai toujours aimé enseigner.
Donc c'est le métier qui vous a choisi ?
Oui.
Alors, professeur de français, c'est un métier où l'on transmet une langue, presque un héritage culturel. Cette notion de transmission est toujours importante pour vous.
Oui, oui, oui. Je trouve que c'est le rôle des enseignants, mais c'est aussi le rôle des adultes. C'est le rôle de ceux qui savent de transmettre leurs connaissances, la culture, la façon d'être avec les autres. Et c'est une tâche qui est à la fois belle, qui est compliquée, mais qui vaut la peine.
Alors, dans le cadre de votre métier de professeur de français, donc vous avez voyagé, hein, que ce soit en Algérie, à Dunkerque, à Saint-Étienne, à Givors, puis à Lyon. Ces lieux sont chargés d'histoire. À Lyon aussi, oui.
Oui, 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 oui.
Donc, ces lieux sont chargés d'histoire, notamment marqués par la désindustrialisation et la souffrance du monde ouvrier. Comme Saint-Cloud, ce sont des villes qui ont nourri vos écrits.
Oui, alors surtout, enfin Saint-Cloud, hein, mais il y a d'autres écrivains qui ont écrit sur Dunkerque, Pascal Dessin par exemple, qui a écrit beaucoup de romans noirs sur Dunkerque, ou sur Saint-Étienne aussi. Hein. Mais moi, je n'écris que sur ce que je connais vraiment, d'une certaine façon. C'est difficile d'écrire sur des endroits ou des personnages qu'on connaît assez mal. Donc, j'ai écrit au moins... J'ai publié déjà 15 récits, mais la plupart ont pour cadre ou Saint-Claude, ou le Haut-Jura, ou le plus loin que c'était les Monts du Lyonnais. c'est à la fois mon univers mental, mon univers d'écriture, et c'est ce que j'ai envie de raconter.
Parce que je parle de Dunkerque, Saint-Étienne, Givors... Forcément, elles nourrissent vos écrits, même si vous n'en parlez pas.
Oui, même si je n'en parle pas, parce que par hasard, mais c'est un hasard, c'est le hasard des mutations, hein, ce sont des villes ouvrières. Et également, ce sont des villes dont l'industrie s'est perdue dans ces années-là. Dunkerque, les chantiers navals, par exemple, qui ont fermé. Saint-Étienne, bien entendu, toute la partie sidérurgique et les mines. Et puis Saint-Claude, avec son industrie du diamant qui a disparu. Et puis l'industrie de la pipe aussi, qui est complètement terminée. C'est à la fois... c'est des villes qui ont un très fort passé, mais qui sont en même temps, aujourd'hui, qui vivent je ne dirais pas une agonie, mais enfin une très mauvaise période de leur histoire. Quoi.
Alors, vous avez exercé en collège, en lycée et en université.
Oui.
Le public n'est pas le même. Alors, quel est celui qui vous manque le plus ?
J'ai beaucoup aimé les adolescents, plus que les collégiens. Et j'ai beaucoup aimé aussi les étudiants, les étudiants en IUT et à l'université aussi. J'aime bien cette période où le jeune est encore plein de rêves et où tout est possible pour lui ou pour elle et où il découvre, quoi.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu envie d'écrire et l'histoire des autres en particulier ?
Alors, le premier récit que j'ai publié, c'est « Mémoire d'immigré valdotin ». Donc, là, en quelque sorte, j'avais écrit déjà un roman sur l'Algérie, un roman sur je ne me rappelle plus quoi, mais je ne pensais pas publier. Enfin, c'était vraiment des tentatives, des essais. Je ne savais pas non plus exactement ce que je voulais écrire, vraiment, dans quel genre, bon. Et puis, il se trouve que dans cette famille valdotaine, donc l'aînée de la famille de mon père, Santine, était une femme très forte, qui parlait très fort et qui avait des expressions très imagées. Enfin, elle me plaisait beaucoup. Et quand j'ai terminé mes études, quand j'étais enseignante, elle me dit « Oui, toi qui as fait des études, il faut que tu écrives l'histoire de la famille ». Et puis, elle la racontait très souvent sous forme d'une épopée, d'une légende. Et elle insistait, il faut que tu racontes l'histoire de la famille. Donc, j'ai obéi, je me suis mise à écrire l'histoire. Elle m'a beaucoup aidée. Elle-même avait écrit en 40 pages en français estropié, comme elle disait. Et j'ai utilisé donc son écrit, puis je suis retournée en Val d'Aoste, rencontrer mes cousins qui sont restés là-bas. J'ai demandé à mon père, à mes oncles. Et j'ai raconté cette histoire. Et puis, ça m'a en quelque sorte ouvert le monde de la littérature, puisque j'avais publié un premier récit. J'étais capable d'en écrire d'autres et ça m'a autorisé à continuer. C'est difficile pour quelqu'un qui vient d'un monde pas du tout du monde littéraire, pas du tout du monde de la culture, de se positionner, de dire je suis écrivain et je publie des livres. Donc là, grâce à cette tante et grâce à ce récit, je me suis dit oui, je vais être écrivain.
Alors, dans les ouvrages que vous lisiez, on ne parlait jamais de Saint-Claude. Saint-Claude, cette petite ville industrielle de montagne se vidant peu à peu de ses industries et de ses habitants. Vous avez repris des études et des recherches universitaires sur la littérature dite populaire, ayant trait au monde ouvrier et à ceux qui parlent de l'usine de l'intérieur. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, là.
En effet. Alors, la thèse que j'ai publiée portait sur l'histoire de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie. Donc c'était un roman écrit par une ouvrière, quasiment le premier écrit par une femme ouvrière, et pendant la guerre d'Algérie. Donc il y avait un peu tout ce qui m'intéressait. Et On n'est jamais si bien servi que par soi-même, vous avez dit.
Oui, oui.
Oui, oui. Ah, oui. Oui, donc, ah, oui. Je...
Personne n'en parlait.
Oui, oui, je voulais écrire sur ce monde-là parce que, bon, il y a eu dans les années 80 une espèce de retour à l'écriture du monde ouvrier avec des gens comme François Bon, Leslie Kaplan. Il y a eu aussi Jean-Paul Gou, qui est un écrivain qui a écrit sur Sochaux, sur l'usine Peugeot. Très, très beau livre. Mémoire de l'enclave, ça s'appelle. Donc, dans les années 80, il y a eu une espèce de retour d'écriture sur le monde ouvrier. Mais quand moi, j'ai commencé, il y en avait assez peu. Et je voulais écrire sur ce monde-là, quoi. J'avais cette espèce de mission, de devoir de mémoire, de volonté de raconter ce que je ne trouvais pas assez raconté, quoi.
Alors, écrire l'histoire des autres, c'est devenu l'une de vos passions, une histoire de rencontre. Ce sont eux qui viennent à vous ou c'est vous qui venez à eux?
Ça dépend. Bon, pour le premier, donc, c'était cette tante qui m'avait incité. Par exemple, j'ai écrit Pendulaire frontalier, les ouvriers du temps. Je crois qu'il était publié en 2016. Et là, c'est moi qui suis allée interviewer des frontaliers dans différents métiers et qui vont à différents endroits de la Suisse, parce que là aussi, je trouvais que c'était quand même un phénomène extraordinaire. Des centaines et plusieurs centaines de milliers de personnes qui quittent leur pays le matin pour aller enrichir un pays et revenir le soir chez eux, dans leur propre pays. C'est un phénomène assez étonnant qui n'avait pas été raconté à ma connaissance. Donc, je me suis dit, je vais raconter ça. Donc, j'ai interviewé des gens de mon entourage, de gens que j'ai rencontrés ici ou là. Et à partir de ces interviews, j'ai créé des personnages de fiction quand même. Et je leur ai fait, j'ai raconté une journée de travail, un aller-retour et un hiver. Voilà. Donc c'est un mélange d'interviews et de travail de fiction sur ces interviews. Pour écrire, par exemple, par travail, là, j'ai raconté l'histoire de mes grands-oncles. Donc, mon grand-père, lui, est parti du Val d'Aoste pour venir en France. Et ses frères, plus âgés, parce qu'il était le dernier de 10, ses frères, eux, étaient partis en Australie à la fin du 19e siècle, début du 20e. Vous imaginez un montagnard qui quitte son village à 1800 mètres d'altitude pour aller travailler en Australie. Enfin, c'est des odyssées, quoi. Donc, et puis dans l'histoire familiale, toujours pareil, dans la légende, l'un était rentré et l'autre s'était perdu, avait disparu, peut-être mort dans une mine, peut-être... enfin, on ne savait pas. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire. Donc là, c'est pareil, je pars d'une histoire vraie, mais j'ai imaginé tous les trous, tout ce qui manquait à cette histoire.
Alors depuis, vous n'avez jamais cessé d'écrire, que ce soit des récits, des biographies, des romans, des chroniques sociales, des recueils, sans oublier des ouvrages collectifs. Votre écriture et vos envies se sont diversifiées avec le temps.
Oui.
Vous avez plus envie de raconter des histoires, celles des autres en particulier, que de raconter l'histoire, même si vous racontez l'histoire à travers justement ces histoires.
Oui, je suis sensible à l'histoire avec un grand H, parce que... Que ce soit un ouvrier de Saint-Claude, que ce soit un émigré italien, que ce soit un frontalier ou un écrivain sur lequel je vais écrire, tous se sont inscrits dans la grande histoire et leur destin est écrit par l'histoire d'une certaine façon. Surtout les gens du peuple, hein, surtout les gens d'en bas, comme on dit. Donc, à chaque fois que j'ai écrit, je me suis aussi penchée sur l'époque, sur les grands faits politiques, historiques, parce que ce sont eux qui déterminent la vie des gens, quoi. Ouais. Et puis, dans l'histoire avec un grand H, justement, il y a aussi des histoires fascinantes, évidemment, qui sont intéressantes pour un romancier.
Vous auriez aimé devenir professeur d'histoire? Vos écrits le prouvent.
J'aurais pu, mais le problème en France, c'est que l'histoire est une matière qui est toujours associée à la géographie. Et je suis moins passionnée par la géographie. Donc, j'aurais pu être professeure d'histoire. Et j'étais très heureuse d'être professeure de littérature, enfin de français, puis de littérature. Donc, non, je n'ai pas cherché une autre matière.
Alors, votre dernier roman, La Pia, avec un Z à la fin, on prononce pas le Z. Hein.
Oui, sauf c'est
si,
ça.
Sauf si on n'est pas du coin.
Voilà.
Ouais, bon. Donc, nous, on est du coin, hein, ça doit être ça.
Oui.
Alors, est paru le premier... Hein, même à Paris, ils sont du coin parce qu'ils ont dit La Pia.
Bah, je leur ai dit. Hein.
Donc,
il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on prononce ou qui me demandent ce que c'est. Bien sûr,
voilà,
bah, après, on va en parler.
Ouais. C'est marqué dans Wikipédia, si on cherche. Si on cherche, on trouve. Donc, La Pia est parue le 1er octobre 2025 aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Alors, pouvez-vous, sans trop en dire, nous en raconter l'histoire?
Alors, c'est l'histoire d'un... d'un endroit très isolé dans le Haut-Jura, où il n'y a que deux maisons. Et dans cet endroit très isolé, à la fin des années 70, vit une famille, donc un couple de paysans déjà âgés qui ont l'obsession de transmettre leurs biens à un des fils. Et puis, donc, dans cette famille, il y a les parents et trois fils. Arrivent dans cet endroit-là, à la grande surprise des gens du coin, un couple de jeunes parisiens, enfin, elle est parisienne, lui est d'origine slovène, et ils arrivent un beau jour en deux chevaux bleus, et ils disent aux vieux qui sont là en train de cultiver leur champ de patates, on vient vivre ici. Alors là, le couple des satins, monsieur et madame, le père et la mère, comme on dit dans l'Haut-Jura, le père satin, la mère satin, tombent des nues. Parce que comment comprendre que des jeunes viennent vivre dans cet endroit très isolé? Pourquoi faire? Comme dit le Père Satin, il veut vivre ici, mais de quoi? Ils ne savent pas. Comment comprendre que ces jeunes arrivent alors que leurs propres enfants ne rêvent que de partir? Et pour faire quoi? Quelle activité? On sait que dans le Haut-Jura, à cette époque-là, c'était de la petite agriculture de montagne, donc quelques vaches, quelques champs. C'était très souvent une double activité, puisqu'ils ne pouvaient pas vivre de leurs quelques vaches. Donc beaucoup, l'hiver, faisaient de la tournerie sur bois, ou même certains étaient lapidaires. Ils allaient chercher des pierres à l'automne et ils taillaient le lapidaire pendant l'hiver. Donc une vie dure, une vie pas du tout tournée vers le plaisir ou les loisirs, une vie de travail quotidien, de tous les jours et de toutes les saisons, et avec l'idée qu'un jour, tout ce travail aura servi à transmettre un bien au fils qui le mérite le plus. Donc dans la famille Satin, c'est Bernard qui est destiné à reprendre l'exploitation. Mais l'arrivée de ces jeunes bouleverse un petit peu cette vie et puis ce projet qui était le projet de transmettre, parce que ces jeunes disent qu'ils viennent là parce que c'est beau déjà. Alors même, moi quand j'étais jeune, on était étonnés qu'on nous dise le Jura c'est beau. Pour nous, c'était une terre de travail, c'était une terre de... la ville de Saint-Claude, en tout cas, c'était très enclavé, on ne trouvait pas ça beau du tout. Et puis même le Haut, déjà c'était très étonnant, on vient ici parce que c'est beau, on vient ici parce qu'on veut trouver la paix, parce qu'il n'y a personne. Bah, quand on est jeune, on a envie de voir du monde, enfin, c'était très étonnant. Et assez vite, alors le couple des satins n'est pas hostile à l'arrivée de ces jeunes, d'autant plus que le vieux monsieur, il dit, puisque nos jeunes s'en vont, c'est bien finalement qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et il a une nature très, très bonne, donc il va essayer de les aider, il va essayer de leur donner des conseils, il leur dit, si vous ne faites pas de bois, vous ne passerez pas l'hiver, parce qu'ici, il fait très froid l'hiver. Bon, il les prend un petit peu comme ses propres enfants, mais il y a quelqu'un qui, dans ce huis clos, enfin dans ce petit groupe, qui n'aime pas du tout la présence de ces hippies, c'est le fils Bernard, parce que lui, son père l'a toujours élevé dans l'idée du travail, dans l'idée de on n'est pas là pour s'amuser d'une certaine façon. et il ne comprend pas que son père s'attache à ces jeunes, donc il est un peu jaloux de l'attention que son père porte à ces jeunes, et puis ces jeunes l'énervent parce que tout est beau pour eux, ils ont un sourire éternel aux lèvres, ils ne travaillent pas, ils jouent de la musique, ils sont tout nus dans l'herbe, enfin... Tout ce qu'il croit détester, en tout cas, tout ce qu'il rejette. Donc, assez vite dans l'histoire, on comprend que ce huis clos est un petit peu explosif, quoi. Qu'il y a... ce sont des personnages très taiseux. Hein. On dit peu, on parle peu. On se comprend sans parole. Et que les deux vieux comprennent très vite que ça va pas très bien aller. Qui, comme dit le père Satin, le ver est dans le fruit, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Et la tension monte peu à peu entre le fils Bernard qui doit reprendre l'exploitation et les jeunes, entre les parents et le fils. Et puis un petit peu aussi dans le couple de hippies, parce que ben, comme tous les rêveurs, les idéalistes, les utopistes, ils sont arrivés là en espérant trouver l'harmonie, la paix. Bon. Et puis Isabelle, surtout la jeune femme, s'aperçoit que ben, non, elle ne trouve pas la paix. Elle se trouve elle-même très peureuse, très angoissée. Elle a peur des vipères, elle a peur des vaches, elle voit des ombres derrière les maisons. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle avait rêvé. Son compagnon, lui, on sent qu'il n'est pas aussi attaché à la volonté de s'ancrer dans un territoire, donc peut-être qu'il va repartir un jour, on s'en aperçoit assez vite. Donc entre eux aussi, les dissensions commencent un petit peu, puis il y a aussi le problème de l'argent, lui dit on s'en fout de l'argent, bon. Elle dit mais de quoi est-ce qu'on va vivre, elle est inquiète. Donc le paradis n'est pas ce qu'on avait imaginé, quoi.
Votre roman, la pièce, se déroule en 1977. Alors pourquoi avoir choisi cette période ?
Je pense, une période de transition, vraiment, pour l'agriculture de montagne et pour les gens qui habitent dans le Haut-Jura à ce moment-là. Donc, comme je l'ai dit, le fils doit reprendre l'exploitation, mais il dit à ses parents, je veux bien reprendre les terres et la maison, mais sans les bêtes. Parce que vous avez été des esclaves, en quelque sorte, il leur dit ça. Donc lui, il veut faire du bois et avoir des génisses l'été, c'est tout. Alors, pour le père Satin, c'est un choc absolu, parce qu'un paysan qui, toute sa vie, a d'abord hérité lui-même d'un troupeau, et puis ensuite l'a travaillé, son troupeau, c'est-à-dire il a travaillé la génétique pour que les bêtes soient adaptées à l'endroit, qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles soient douces. Donc, vendre ces bêtes ou que ces bêtes partent, pour lui, c'est terrible, quoi. Il pleure presque. Et le fils... Donc lui, on voit que déjà, il change un petit peu la tradition. Il veut autre chose que ce qu'ont vécu ses parents. Sa jeune femme aussi, il a une jeune femme qui s'appelle Arlette, elle vient d'un autre village, et elle a connu aussi un petit peu des choses différentes. Elle a connu le ski de fond, c'est le début du développement du ski de fond aussi. Et elle lui dit, par exemple, un hiver, il est en train de réparer ses outils dans la remise, elle lui dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller se promener l'hiver est long, et tout ça. Elle dit, quoi, se promener? Enfin, il dit, bah, comment c'est... Lui, on voit qu'il est encore dans cette mentalité qu'on est à un endroit, on ne bouge pas. Et il lui dit, mais de quoi j'aurai l'air si je vais dormir Parce qu'elle lui dit, on pourrait dormir dans un refuge, faire une petite randonnée. Elle a vu ça. Elle lui dit, mais bon, je ne veux pas aller dormir au refuge où mes copains boivent des canons, ça ne va pas. Et de quoi j'aurai l'air? Et elle lui dit, bah, tu aurais l'air de quelqu'un qui profite de la vie. Et c'est ça, à ce moment-là... Il y a quand même une réflexion de ces enfants de paysans qui disent bah, « Oui, il faut qu'on ait une autre vie que celle de nos parents. » Donc, à la fois les hippies, ces jeunes qui cherchent le paradis. C'est un moment clé pour eux. Enfin, c'est un moment clé où existent ces hippies. C'est un moment clé pour l'agriculture qui change, pour les enfants d'agriculteurs qui changent. Le pays est en train de changer. Enfin, la vie dans le Haut-Jura est en train de changer. Donc, je trouvais intéressant de raconter toutes ces mutations, toutes ces convulsions presque, parce que ce n'était pas toujours facile pour les gens. L'apparition du tourisme, ces gens qui disent « on vient là parce que c'est beau », bah, ça aussi, c'était intéressant à raconter. Le début du ski, le début de l'industrie du ski, d'une certaine façon. Et voilà, tout ça a fait que j'ai choisi cette période. Et puis, plus personnellement, j'ai déjà un petit peu raconté, mais quand j'étais au lycée et que je rêvais que de partir, et que je suis partie comme étudiante, mes copains et moi, on a vu arriver ces hippies. Ils étaient à peine plus âgés que nous, mais pas beaucoup. Donc, nous aussi, un petit peu comme le Père Satin, on a été intéressés, intrigués, amusés. Ils apportaient une espèce de joie de vivre. Ils sortaient beaucoup, ils fumaient beaucoup, toutes sortes de choses. Ils jouaient de la musique. Donc, nous, on est dit, mais c'est chouette. Donc, avant de partir, d'une certaine façon, avant de quitter nos montagnes, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rester un petit peu là, voir faire des fêtes avec eux, voir un peu comment ils vivent. Et donc, moi, ça a été une belle expérience pour moi de rencontrer ces jeunes. Donc, je connaissais bien leur façon d'être. Et en même temps, je connaissais très bien la façon de penser de mes grands-parents, de mes parents. Je savais très bien qu'ils disaient que c'était fainéant, ils foutent rien, ils vont repartir, ils sont là que pour perturber tout le monde. Enfin bon. Donc, j'étais un petit peu des deux côtés de l'histoire. Donc, ça m'a intéressé de la raconter parce que moi-même, j'étais un peu coupée en deux. Enfin, j'étais aussi dans la faille, dans l'apia, d'une certaine façon, parce que je connaissais les deux points de vue. Le Père Satin, c'est exactement mon grand-père, mon père. Enfin, je sais exactement comment il parle, comment il pense. Et Isabelle, puisque c'est une jeune femme et que je savais exactement aussi ce qu'elle pensait, ce qu'elle vivait, ce qu'elle pouvait rêver et les déceptions qu'elle pouvait avoir. Quoi.
C'était vous, Isabelle ?
Un peu. Pas complètement, mais un petit peu.
Alors, l'Apia, le nom donné à ces plateaux calcaires, hein, de grandes étendues planes et dénudées, souvent comparées à un glacier de pierre, j'ai lu.
Oui.
Donc, c'est l'image d'une nature froide, hostile, à l'image de la région où se déroule le roman. Les femmes et les hommes ne sont pas forcément les bienvenus, mais même c'est ceux qui habitent, je trouve, dans ces... Dans ces lieux.
Alors, c'est minéral, c'est très calcaire. Hein. C'est une immense dalle qui est cisaillée par ces crevasses. C'est l'eau qui a créé ces failles. Mais ça peut être au milieu d'une forêt. Hein. C'est pas forcément froid. C'est un endroit, de toute façon, qui est connu par les gens, qui est bien connu, mais qui est craint. Qui est craint parce que les bêtes peuvent tomber, s'il y a de la neige, s'il y a des feuilles mortes qui recouvrent les failles. Les hommes aussi peuvent, s'ils ne connaissent pas, ils peuvent, ou si, par un moment d'inattention, ils peuvent tomber. Donc c'est un endroit qui est craint et l'histoire se passe à côté. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est aussi la métaphore du malaise qui s'installe dans la confrontation entre ces deux mondes, quoi. Et alors, je ne dirais pas que c'est froid, que les gens sont froids. Les gens sont taiseux, bon, je l'ai déjà dit. Ils sont durs, parce que ce qu'ils vivent est dur. Ils ont des passions, comme tous les êtres humains. Par contre, comme ils ont l'habitude de ne pas forcément les vivre, bon, elles sont un petit peu enfouies, elles sont un petit peu cachées, et parfois ça explose, quoi.
C'est pas une nature faite pour les hommes, à la base.
À la base, c'est quand même pas les Alpes, hein, c'est quand même une moyenne montagne qui a été défrichée depuis très très longtemps. C'est pas vraiment hostile, mais c'est un endroit qu'il faut connaître. Et où il faut travailler, quoi. C'est pas facile, c'est pas un endroit facile.
Alors, Lapia est l'histoire de Tony et Isabelle, donc ce jeune couple qui s'installe en haute montagne et qui va perturber la vie de ses habitants installés depuis longtemps et qui travaillent dur dans des conditions difficiles. Vous le disiez que sont ces régions du Haut-Jura. Mmh. Les étrangers ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Pas besoin d'avoir un nom ou une couleur de peau différente.
Bien sûr. Tony et Isabelle sont vraiment des autres. Enfin, l'autre au sens l'étranger. Mmh. Parce que... Parce qu'ils n'ont absolument aucun point commun avec les habitants du coin. Quoi.
Et ils ne sont pas du coin.
Et ils ne sont pas du coin, bien sûr. Ils viennent de Paris, ils viennent d'une grande ville.
Donc c'est forcément des étrangers. Mmh. Mmh. Ouais. Anthony a un accent étrange et Isabelle a le visage balafré. Oui. Deux différences qui ont leur importance dans l'histoire. On les regarde pas de la même façon, même physiquement. Alors, contrairement à ce que l'on pense, la tolérance n'est pas une vertu chrétienne, l'ouverture d'esprit non plus.
Mais tout le monde s'observe, c'est un livre sur les regards. Ouais. Mais ils s'observent parce qu'ils habitent pas loin les uns des autres, parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, certains disent que c'est ma distraction d'aller voir les jeunes, de voir ce qu'ils font. Donc, on regarde ce que font les autres et on s'y intéresse ou pas, suivant les caractères. Le père certain, la mère certain sont intéressés par ce que font ces jeunes. Leur fils est dérangé.
Alors dans la Pia, il y a les anciens qui, contrairement aux plus jeunes, sont plutôt bienveillants, vous le disiez, entre les jeunes des villes qui arrivent à la campagne. Pour eux, c'est presque une seconde jeunesse, comme une certaine nostalgie.
Oui, c'est comme ce qu'ils appellent la relève. La relève, c'est ceux qui vont prendre la suite. Ils espèrent qu'ils vont faire revivre ces endroits désertés. À la fin des années 70, il y a énormément de fermes qui sont désertées par leurs habitants, qui tombent en ruine. Aujourd'hui, non, puisque aujourd'hui, il y a les frontaliers qui rachètent toutes les maisons. Mais à cette époque-là, il pouvait y avoir dans une combe plusieurs maisons vides. Donc c'était un pays qui était déserté. Et voir arriver ce nouveau sang, cette belle jeunesse, c'était un espoir, effectivement. Ouais. Un espoir d'avenir.
Mmh. Il y a un couple, donc, celui que forment Bernard et Arlette. Le premier a repris l'exploitation de ses parents et son épouse l'aide dans cette tâche lourde et chronophage. Mmh. Arlette a tout sacrifié par amour, sa jeunesse et sa passion pour le ski de fond. Femme d'agriculteur dans ce coin aussi reculé qu'est le Haut-Jura, c'est renoncer à sa propre vie et ses propres envies.
Elle n'a pas, pensé les choses comme ça. Elle a rencontré Bernard, ils se sont plu, elle est venue habiter là.
Ça se termine comme ça.
Oui. Comment ça se termine comme ça?
Elle a renoncé une partie de sa vie.
Oui, mais c'était assez normal pour elle. Son père était lui-même un paysan, son père lui avait appris à chasser les vipères. Elle n'a pas, je ne pense pas qu'elle l'ait vécu comme un renoncement. Par contre, à un moment donné, elle va se révolter. Mais quand elle est venue habiter là, c'était une destinée normale pour une jeune fille d'un village de venir habiter dans une ferme.
Alors Arlette a une passion, elle est chasseuse de vipères à ses heures perdues, ce qui lui permet de ramener un peu d'argent à la maison.
Oui.
Un métier aujourd'hui interdit. Et un symbole, celui de cette puissance féminine et de l'importance des femmes, notamment dans les campagnes.
Oui, oui, oui. Elle, c'est son père qui lui avait appris cette chasse. Et non seulement ça rapportait un peu d'argent, mais c'est vrai que les autres craignaient un petit peu ces chasseurs ou ces chasseuses de vipères, parce que le serpent, oui, effectivement, a une force un peu maléfique. Et puis en plus, là, souvent, les serpents, ils sortaient des lapias, donc des failles. Donc c'est vraiment le côté ctonien, enfin le côté des entrailles de la terre, quoi. Et donc c'est craint. Donc celle qui domine ces forces et ces animaux, elle est pas sorcière, mais enfin elle est un petit peu à part, quoi.
Alors l'histoire de Lapia est racontée par quelques-uns des personnages avec leurs ressentis, avec leur sensibilité, avec leurs mots également. Je pense à la femme, à la vieille, l'autre. Enfin, il y a plein de termes différents. Vous ne vouliez pas être la narratrice, comme si ce n'était pas votre roman.
Non, c'est pas ça. Je veux faire parler les gens comme ils parlent. Donc, le Père Satin, c'est le narrateur. Et comme je l'ai dit, je l'entends, le Père Satin, c'est mon grand-père, c'est mon père. Donc, je ne voulais pas le faire parler comme un Parisien ou comme un professeur. Et je voulais restituer sa façon de parler. Et sa façon de parler, c'est aussi sa façon de penser. Donc, je voulais être très fidèle à ça. Et je pense que j'ai réussi quand même. Et après, Isabelle, j'utilise la troisième personne pour parler d'Isabelle, mais comme je me sens assez proche d'elle, je peux aussi aller dans son intériorité, dans ses pensées. Donc c'est à travers les personnages que je me raconte, parce que dans un roman noir, l'auteur est dans ses personnages. Donc, mais ce n'est pas mon histoire. Mais c'est à travers cette histoire dure et tragique que je peux décrire une époque, un monde, et que je peux aussi comprendre de l'intérieur ces personnages.
Il y a donc une part autobiographique dans
le roman. Oui, ouais. Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Alors, suite à la parution de Lapia, vous allez rencontrer votre public, que ce soit en librairie, dans les festivals comme celui du livre de Pont-Saint-Esprit ou le festival international du film à Autran-Montagne, cinéma et littérature, au lycée du Granier à Larvoir, que ce soit dans la Somme, à Nantes, à Niort, à Besançon ou à Oyonnax. Et oui, les kilomètres ne vous font pas peur. Aller à la rencontre des autres, tu en fais partie de votre ADN.
Oui. J'aime rencontrer les autres. Et puis là, c'est encore des rencontres différentes, puisque j'ai la chance qu'ils me disent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont ressenti à la lecture de ce livre, puisque toutes ces rencontres sont autour de mon roman. Donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. Hein, donc, je fais le tour de France, à ma façon. Je trouve que les gens lisent un livre, mais ils se lisent à travers le livre. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le retour des lecteurs. Alors, une chose, par contre, qui m'a vraiment surprise, je savais que ce livre allait parler aux Jurassiens, aux habitants des moyennes montagnes. Mais j'étais étonnée quand on m'a invité à Nantes ou en Picardie. Je ne pensais pas que ça allait parler aux gens des plaines ou aux gens des villes, des plus grandes villes. Mais beaucoup m'ont dit, mais si, on connaît tous une histoire qui ressemble à celle-ci. Une histoire de transmission, donc. Et puis une histoire qui devient presque, je ne vais pas dire la fin, mais qui devient presque biblique. Et ça devient presque universel, quoi, ce genre de roman. Donc, ça parle vraiment à beaucoup.
Ouais. Et donc, il y a ce début de succès inattendu.
Inattendu, parce que, comme je l'ai dit, ça fait quand même 15 textes publiés. Et celui-ci a vraiment un autre rayonnement que les autres. Donc, c'est dû à la maison d'édition qui est très bien organisée pour faire connaître ses livres.
Qui fait son travail.
Qui fait très bien son travail. Mmh. Et je m'en réjouis. Voilà.
Et oui, ce n'était pas le cas avant. Et
oui.
Voilà. Mais ça vous surprend, parce que vous avez écrit entre 15 et 20, c'est d'un seul coup.
Alors c'est quand même c'est le deuxième roman noir. Je pense que le roman, parce que j'ai écrit beaucoup de récits, donc c'est quand même moins, il y a moins d'intérêt quand même dans un récit que dans un roman. Dans un roman, on est dans la fiction, on est dans une histoire qui est construite, donc c'est un peu différent. Roman noir aussi, je pense que le roman noir a, dans notre société un peu noire, on doit le dire, il a vraiment un écho fort. Donc ces deux raisons, roman noir, et puis je pense que, encore une fois, c'est une histoire qui touche, quoi.
Donc ça, il a beaucoup d'écho, y compris à France Culture.
Alors voilà, j'ai été invitée à...
Qui n'est pas forcément fan de entre guillemets, de
romans noirs. Oui, oui. J'ai été invitée au Book Club, qui est quand même une émission très littéraire. Et même mon éditrice était un peu surprise de cette invitation, surprise et heureuse, bien sûr. Là aussi, c'est une question de rencontre. La productrice de cette émission a lu le roman et elle a eu envie de me rencontrer parce que le roman l'a vraiment touchée, quoi.
Alors, vous étiez à la librairie Zadig à Saint-Claude,
oui,
le 2 octobre dernier pour présenter l'Appia. Vous, la Saint-Claudienne de naissance, à peu près.
Oui.
Me dites, vous êtes née à côté d'un village à côté.
Ah oui, 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 mais c'est à 2 km, quoi. Enfin, c'est. Ouais.
Bon, Saint-Claude, hein. Saint-Claude de naissance. C'est un passage dans la librairie Zadig, c'est un passage obligé. Ils ne vous ont pas oublié comme vous, vous n'avez pas oublié d'où vous venez.
Non, ils m'ont jamais oublié. Et j'ai présenté tous mes livres à la librairie Zadig, très souvent en premier. Et là, c'était le cas, puisqu'il est sorti le 1er octobre. J'étais invitée le 2 octobre. Ils sont fidèles à moi. Moi, je suis fidèle à eux. J'aime bien cette librairie. J'aimais beaucoup la libraire précédente, Catherine Lapeyrière, celle qui a créé cette librairie. Et c'est impensable pour moi d'oublier Saint-Claude. C'est impossible.
Alors, comment réagit le public présent? Certains se sont reconnus dans ce Haut Jura de 1977.
Oui, oui, oui. Beaucoup se sont reconnus et beaucoup m'ont dit que j'avais vraiment retranscrit à la fois l'univers par mes descriptions de la montagne, mes descriptions des combes, de la végétation, des vaches, etc. Et puis l'époque, bien sûr, et puis même les personnages, quoi. Je pense que, enfin, à part la tonalité un peu noire, qui peut-être a inquiété certains, puisqu'ils ont dit c'est pas si noir notre Jura. Bon, à part ça, beaucoup ont trouvé que j'étais fidèle à mon modèle et à eux, quoi.
Alors, votre passion d'autrice, mm-hmm, vous emmène dans d'autres domaines que l'écriture de vos propres livres. Vous animez des ateliers d'écriture. Mm-hmm. Alors, votre métier de professeur de français vous manque à ce point?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Quand on enseigne la littérature en lycée ou à l'université, on n'enseigne pas l'écriture. On enseigne des connaissances, d'une certaine
des
façon.
Autres, ouais.
Et je trouvais que c'était dommage. J'ai eu souvent des élèves qui avaient envie d'écrire, comme moi. J'ai eu très envie d'écrire quand j'étais au lycée. Et on ne nous donnait pas des conseils ou des techniques d'écriture comme aujourd'hui on sait le faire en atelier d'écriture. Donc dès que j'ai pu, j'ai commencé à Lyon, je suis allée à des ateliers d'écriture moi-même, qui m'ont beaucoup aidée et beaucoup encouragée à écrire, parce qu'on est en groupe et on nous donne des idées, on nous donne des pistes, on nous donne des lectures aussi, et on progresse, et on progresse. Et j'ai voulu, à mon tour, aider tous ceux qui ont envie d'écrire à progresser.
Alors justement, quels sont vos publics? Qui s'inscrit à ces ateliers d'écriture?
Alors vraiment, tout le monde. J'ai animé des ateliers d'écriture dans des foyers pour réinsertion, c'est-à-dire des foyers de SDF qui viennent là. Ils ont écrit. J'anime dans des MJC, donc là j'ai tous les gens du village, enfin un peu tout le monde. J'en ai animé en lycée, j'en ai animé en IUT. Tout le monde peut écrire. Tout le monde, à condition d'avoir quelque chose à dire. Donc on peut être quasiment analphabète et avoir quelque chose à dire. Donc à ce moment-là, on écrit pour eux. J'en ai fait aussi ça. Parce que l'envie de s'exprimer, de dire quelque chose sur ce qu'on a vécu ou sur le monde, elle est irrépressible. Quelqu'un qui a envie de le dire, il trouvera toujours un moyen pour s'exprimer. Et donc, les ateliers d'écriture, ça le permet.
Alors, vos ateliers débouchent forcément sur les écrits publiés, que
non,
ce soit sur le papier ou sur Internet?
Non, non. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière qu'une de mes écrivaines publie un livre.
D'accord.
Parce que c'est encore une autre étape, hein, la publication, trouver un éditeur. Bon. Mais on peut écrire toute sa vie et être heureux d'écrire sans forcément être publié par un éditeur.
Maintenant, il y a les blogs, hein, si on veut.
Bien sûr, il y a plein de blogs. Ah, oui. Voilà, on fait des lectures aussi, beaucoup de lectures des textes qu'on a, des lectures à voix haute, je veux dire, des lectures musicales, des spectacles. On n'est pas obligé d'être toujours publié, quoi.
Ouais. Alors, vous avez participé au caveau des lettres à la MJC de Chaponneau.
Oui, c'est même moi qui l'ai créé.
Voilà. Alors, en quoi consiste ces soirées consacrées à la lecture sous toutes ses formes, hein, y compris musicales.
Oui, oui. Eh bien, il y avait deux techniques qui me manquaient quand j'enseignais. C'est la technique de l'écriture et puis la technique de la lecture. Parce que même certains écrivains, quand ils lisent leurs textes, ils ne lisent pas de façon habile, en quelque sorte. Ça ne donne pas envie de lire le livre. Alors que aujourd'hui, par exemple, il y a Lucchini, quand il fait des lectures, il remplit des salles parce qu'il lit le texte de façon vivante, de façon professionnelle. Donc, moi, quand j'ai eu du temps, je me suis dit, je vais créer un groupe de lecture à voix haute. Donc, on se réunit à la MJC de la ville. Et sur un thème donné, on lit des extraits de texte. Mais on lit de façon, d'une belle façon, quoi.
Presque théâtrale.
Presque théâtrale, voilà. Ça, c'est un type de soirée. Sinon, on invite des poètes, des écrivains de la région, ou on fait aussi ce qu'on appelle des lectures-spectacles. Donc là, sur un thème aussi, mais avec des musiciens, avec des photos, on crée à partir des textes écrits un vrai spectacle.
Alors, outre la chanson, le cinéma ne vous a pas laissé indifférente, puisque vous vous êtes retrouvée en 2024 coprésidente avec Jean-Luc Guyot du festival Roman et Cinéma à Verdoux en Vivarais.
Non, je suis pas coprésidente. C'est un...
C'était marqué...
Non.
Alors, en quoi consiste ce festival?
Alors, c'est un festival dans une petite ville d'Ardèche, qui fait penser un peu à une petite ville du Jura, mais où il y a au moins 200-300 personnes pendant deux jours. Le principe, c'est de présenter des films qui sont adaptés de romans, uniquement. Et donc, avec mon camarade Jean-Luc, moi, je présente les romans, donc pour les gens qui ne les ont pas lus, ou je fais une petite analyse pour ceux qui les ont lus, et mon camarade Jean-Luc, lui, il revient sur l'adaptation, le cinéaste, ses choix, etc.
Alors, vous entretenez-vous quel rapport avec le cinéma? C'est une source d'inspiration pour vous?
Non. C'est une œuvre d'art comme un roman, comme un essai. Non, je ne peux pas dire qu'il y a des films qui m'aient inspiré.
Alors, lorsqu'il est question du monde ouvrier et de cinéma, moi, en tout cas, enfin, je dis on pense au film de Robert Guédiguian ou au documentaire de Raymond Depardon, Gilles Perret et pourquoi pas François Ruffin. Vous portez quel regard sur leur travail, sur leur œuvre?
J'aime bien Guédiguian, oui, effectivement. J'ai beaucoup aimé aussi les films de Ruffin sur les femmes de ménage,
debout,
par exemple.
Debout les femmes.
Debout les femmes, oui. Mm-hmm. Très, très bien. J'ai bien aimé récemment l'adaptation de L'Établi de Robert Linhart. Alors, Les Établis, c'était ces maoïstes qui allaient travailler à l'usine dans les années 70, justement, pour convertir les ouvriers à la Révolution. Mais qui, très souvent, ont quitté l'usine. Ils n'y sont pas restés, bien évidemment. Et tant mieux pour eux. Mais la plupart ont écrit. Et Robert Linhart avait écrit un très beau roman qui s'appelait L'Établi, et qui a été adapté au cinéma récemment. Et Perret aussi, très bien. Enfin, Gilles Perret. Oui.
Donc les romans et le cinéma sont liés depuis toujours, hein, puisque les premiers inspirent énormément les derniers. La PIA pourrait-il inspirer le 7e art ou la télévision?
Alors, vous n'êtes pas le premier à m'en parler. Pourquoi pas? C'est un récit qui pourrait très bien devenir un film, et assez facilement, dans la mesure où on est dans une unité de lieu et une unité de temps. Oui, s'il y a un metteur en scène qui veut me contacter.
Pourquoi pas? Hein. Alors, vous tenez un blog littéraire sur Internet, hein, www.marise-vuillermet.fr. Écrire des livres, rencontrer votre public et lire devant les autres ne vous suffit pas.
tout est lié, d'une certaine façon, tout est lié à cette passion. Hein.
Ouais. Vous considérez comme une militante de la littérature vivante.
Oui.
Alors, comment définiriez-vous cette notion ?
Alors, un petit peu dans ce qu'on vient d'expliquer, pour moi, les ateliers d'écriture, les ateliers de lecture à voix haute, les rencontres sont des façons de rendre le livre accessible à tous, de le rendre encore plus vivant. Parce que on ne se le cache pas, il y a de moins en moins de jeunes qui lisent, par exemple, ou il y a beaucoup, beaucoup d'autres arts qui font que la lecture est un petit peu remisée au grenier. Donc, j'essaye par tous les moyens, mais parce que ça me plaît aussi, de défendre le livre. Et je vois que, par exemple, actuellement, dans certaines émissions de télévision, on met en avant aussi la lecture à voix haute. Il y a des concours de lecture à voix haute. C'est une très bonne façon de défendre le livre. Moi, chaque fois que j'ai lu à voix haute mes écrits, mes romans ou mes récits, les gens ont eu envie de lire le livre, quoi. Ça donne envie.
J'imagine que vous êtes dans l'écriture d'un nouveau livre. Ce sera forcément un roman.
Là, oui, c'est un roman noir.
Bien.
Je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que je suis vraiment dans le chantier,
voilà.
Comme on dit.
Ouais. Donc, on n'en dit pas plus.
À pied d'œuvre, comme dit le film.
Bien. Alors, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le cœur, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Maryse, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Je viens de lire Autobiographie d'un chevreuil, d'un jeune romancier, et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un romancier qui raconte son enfance auprès d'un père qui se présente comme un magnétiseur, comme quelqu'un qui sait capter les ondes. Enfin, vous savez, ce genre de personnage qu'on trouve beaucoup aussi dans le monde hippie, enfin dans le monde marginal, et dans les endroits un peu dans la campagne, dans les endroits un peu isolés. Donc ce personnage m'a bien intéressé, mais ce père était à la fois fascinant par cette position de mage qu'il prenait, et en même temps très dur avec son fils. Et puis son fils a trouvé, grâce à une jeune femme, le moyen de raconter son enfance. Et à travers aussi les relations avec les animaux, et en particulier le chevreuil, qui est un animal, paraît-il, j'ai appris dans ce livre, très, 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 très sauvage et très intelligent de la forêt.
Côté proposition de la quinzaine, notons le thriller de Jean-Christophe Porte, Apocalypse américain aux éditions Hugo Thriller, le roman de Christian Cotte-Aymar, Les fantômes de ma tante aux éditions Orage Lagune Express. Que vous connaissez.
Oui, je connais. Oui.
Voilà. Le thriller de Québec Jurassien, maintenant aussi. Hein. Même si Viris est à côté de Nam, mais comme c'est dans le Jura.
Oui.
Hein, le thriller de Stephen King, Ne jamais trembler, aux éditions Albin Michel. Le roman de Karine Sulpice, Méchante, aux éditions Liana Lévy. Le livre d'Alexis Leipziger, Qui vous ment, aux éditions Michel Lafon. Le roman de Liane Moriarty, L'anniversaire, aux éditions Albin Michel. Le polar de Vishdamija, Le mania, aux éditions Point. Le thriller d'Elena Sander, L'ADN du chaos, aux éditions Albin Michel. Le roman d'Andrea Mara, Ils n'ont rien vu, aux éditions Point. Le thriller de Gérard Sarian, Water Jail, aux éditions M+. Gérard Sarian, vous connaissez ?
Non.
Ah oui, il est de Lyon.
D'accord.
Et le polar d'Audrey Brière, Mauvais cœur, aux éditions Point. Audrey Brière ?
De nom seulement.
Très intéressant, ces romans... Dans le monde, notamment dans le Nord, là. Très bien. Le livre de Bernard Coutebras, Jean-Paul Rodet, je me souviens, aux éditions d'Ambrosette. Jean-Paul Rodet était longtemps adjoint à la culture à Bourg-en-Bresse. Et Bernard Coutebras est un des premiers animateurs de Tropic FM à l'époque, en 82.
Ouais.
Le roman de Chavi Molia, La vie ou presque, aux éditions Point. Le thriller d'Ambre Doé, Orpheus, aux éditions Scriptorium. Le livre de Sébastien Poulain et Raphaël Dapzol, Les radios scolaires, une éducation dans pour les médias aux éditions Les Soyeux Bleus.
Donc ça, c'est pour vous, hein,
pour le... C'est pour nous, ouais, tout à fait. C'est pour Radio B, tout à fait. Le polar de Vincent Villa, Animal lecteur aux éditions Scriptorium. Le thriller de Nel Lamar, La fille qui venait la nuit aux éditions City. Le roman de Sophie Talmen, Malgré tout ce qui nous sépare aux éditions Albin Michel. Le polar de Stanislas Petrovski, Derrière la chair, aux éditions La Manufacture de Livres, et le livre de Benjamin Danet, Les Verts 76 aux éditions Scotty. Je ne vous parle pas évidemment de quoi il s'agit. Il s'agit bien sûr de football, et on fêtera cette année les 50 ans. Les 50 ans de la fin d'un grand club.
Alors nous, vous savez qu'à Saint-Cloud, c'est le rugby. Hein.
Je sais bien. Enfin, c'était le rugby, parce
qu'ils
sont à un niveau très 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 bas. Hein.
Voilà, voilà. Attention, vous n'allez pas vous faire des copains.
Oh, je pense que je dis que la vérité, malheureusement. Mon père adorait le rugby, donc Saint-Claude, hein, Réna, tout ça. Voilà. Bon, mais les Verts 76, vous êtes connus.
Bien sûr.
Ça veut dire que ça vous parle. Ah ouais. Vous avez votre t-shirt de Saint-Étienne aussi.
Non,
quand même pas. Non. Mais bon, voilà. Donc, puis on en reparlera parce qu'on fêtera les 50 ans bientôt. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, Maryse Vuillermet.
Ben, merci à vous,
merci
Michel.
D'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare. Rappelons que votre dernier roman, La Pia, est paru le 1er octobre 2025 aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. On peut se procurer dans toutes les librairies.
Oui.
Sans oublier votre livre.
J'ai vu qu'à Bourg, enfin, c'est une amie qui m'a fait la petite photo à la librairie.
Montbarbon.
Oui. Il est très bien mis en valeur avec un joli notule.
Très bien.
Voilà.
On peut suivre votre actualité sur Internet via votre blog littéraire, www.maryse-villermet.fr, le site Internet de votre maison d'édition, Le Rouergue, www.lerouergue.com, sans oublier les inévitables réseaux sociaux.
Oui, bien sûr.
Allez, Maryse, bonne chance pour la suite
merci
de vos
beaucoup,
aventures.
Merci beaucoup.
Alors, d'autrice, bonne écriture.
Merci, merci à vous.
Bonne séance de dédicace.
Merci.
Alors, bon salon.
Aussi.
Bon voyage.
Aussi.
C'est un peu des choses. Hein.
Oui.
Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, avec plaisir, pour le prochain.
Pour le prochain. Au revoir.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.